Fondamental, Père Philippe Saint-Joseph, 25 octobre 1984.
Je crois que c'est la dernière matière que nous n'avons pas encore commencé à voir, qui est une matière très délicate, difficile. C'est ce qu'on appelle théologie fondamentale, c'est-à-dire ces problèmes des rapports de la foi et de la pensée, donc de la philosophie, si vous voulez. Ça peut prendre des perspectives très diverses, puisque anciennement c'était l'apologétique. Alors l'apologétique a donné naissance à la théologie fondamentale. C'est comme ça que j'ai commencé au Solfoire. Enseigner l'apologétique et la théologie fondamentale. Mais depuis, ça a pris des proportions très grandes, multiples et diverses. Alors, je ne vais pas faire un grand cours de théologie ici. C'est plutôt une réflexion que nous faisons ensemble sur certains problèmes absolument indispensables. Nous sommes tous, je crois, ici, croyants. Je l'espère, je ne sais pas, parce qu'on ne sait jamais. Hein, nous sommes tous croyants. Ouais, je présuppose. Hein, hypolepsis, hein, l'hypothèse. Je prends ça. Nous sommes tous croyants. Nous sommes tous intelligents. Autre hypothèse. Hein, nous, au moins, nous essayons tous de l'être et de le paraître. Alors, et d'essayer de creuser donc le problème de la recherche de la vérité. Nous connaissons tous ce que saint Thomas nous dit, les trois sagesses. Sagesse philosophique, sagesse théologique acquise, sagesse mystique. Nous connaissons tous plus ou moins les degrés du savoir de Maritain. C'est un livre à lire, un livre de chevet, un livre à lire. C'est un des livres qu'il faut lire, le degré du savoir. Parce que c'est un livre, je ne dis pas qu'il faut tout suivre à la lettre, je crois qu'il faudrait le reprendre. Mais l'idée est très juste, les degrés du savoir, essayer de comprendre justement les différentes zones intéressantes et importantes. Il faudrait qu'une année on fasse un séminaire là-dessus, sur les degrés du savoir, et qu'à la fin de l'année on fasse une réédition revue et corrigée. Ce serait très bien, parce qu'alors on reverrait toutes les quantités de problèmes qui demandent à être repris, c'est normal, parce que c'est des questions tellement complexes. Et c'est pour ça qu'il est bon d'y réfléchir. Alors, le problème de la théologie fondamentale, voyez, c'est un problème de critique. C'est très difficile de faire la critique de la théologie avant de faire de la théologie. Très mauvais. Donc on n'est qu'ancien. Mais il y a quelque chose de juste dans Kant, toujours. C'est que d'une certaine manière, il y a un problème critique qui dispose, ce que j'ai essayé de vous expliquer ce matin en philosophie première, il y a une certaine réflexion critique qui dispose. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la critique se fasse pleinement avant la philosophie première. Mais il y a un certain problème de critique qui peut disposer à la philosophie première, il y a un certain problème critique au niveau théologique qui dispose à la théologie. C'est ce que nous ferons. Parce que, automatiquement, si on est croyant et qu'on fait de la philosophie, on fait de la théologie. C'est impossible autrement. Pas toujours de la bonne, hein. Ça, c'est sûr. On n'a pas encore suffisamment de bouteilles, et un vieux théologien, il faut que ça mette du temps. Et puis surtout, on ne connaît pas encore suffisamment la tradition. On ne connaît pas encore suffisamment les pères de l'Église, les grands théologiens et les théologiens modernes, qui quelquefois ont de l'herbe de grands théologiens. Alors, on ne les connaît pas assez. Or, si on voulait faire de la théologie, on devrait tous les connaître. C'est pour ça que c'est si difficile d'être professeur de théologie aujourd'hui. C'est pas commode d'être professeur de philosophie, mais c'est plus difficile d'être professeur de théologie. C'est plus complexe. D'être professeur de philosophie, il y a mille façons de la faire. Alors on peut, oui, télescoper. Bon, on a une certaine liberté au point de vue philosophique. On peut une certaine liberté. Tandis qu'au niveau théologique, ah, on a beaucoup moins de liberté. Quand on enseigne la théologie, on l'enseigne toujours avec un mandat de l'Église. Au moins dans l'Église catholique. Dans l'Église orthodoxe, ce sont des laïcs qui enseignent la théologie. Dans l'Église catholique, ce sont des clercs. Pas toujours, puisque je vous dis, j'ai dit qu'actuellement, les femmes commençaient à enseigner jusque dans l'angélique et la grégorienne. Et donc, on va en voir bientôt un peu partout enseigner. C'est très bien, du reste. Parce qu'il n'y a pas de raison que la théologie soit réservée à caractère ecclésiastique et que le sacerdoce ne vous donne pas nécessairement une grâce d'intelligence. Non, c'est pas directement cela. C'est un pouvoir instrumental qui ne vous donne pas nécessairement le point de vue de l'intelligence. Et que pour faire de la théologie, il faut être intelligent. Autant que possible. Pour faire de la bonne théologie, il faut être intelligent. Et être suffisamment philosophe. Et avoir suffisamment manié la critique pour comprendre un tout petit peu ce qui peut être assumé par la foi. Et au fond, c'est le problème qu'on va voir ensemble. Il y aura un problème que je crois très intéressant, qui est un problème de théologie fondamentale. Peut-on, pourrait-on établir les conditions nécessaires, vous voyez, c'est presque du Kant, hein, établir les conditions nécessaires pour qu'une théologie soit une théologie catholique. Autrement dit, est-ce que toute philosophie peut s'allier à la foi ? C'est un très grave problème. Il y a un problème très important. On pourrait se poser la même question, est-ce que toute philosophie peut nourrir un exégète ? Certains exégètes, c'est le livre du père Grelot qui vient de paraître, vous avez le livre « La réponse fulgurante à Trémontant par rapport à l'évangile de saint Jean ». Il fallait évident qu'il y ait une réponse fulgurante. Alors Grelot s'est mis à se secouer et alors il donne une réponse très raide, très dure. Et alors il dit ouvertement contre Trémontant. C'est intéressant, ce n'est pas un problème qui vous intéresse directement, mais c'est quand même un problème très actuel et intéressant à ce point de vue-là. Alors, le père Grelot répond que l'exégète, comme tel, n'a pas besoin de philosophie. C'est intéressant de savoir ça. Est-ce que... Je ne suis pas d'accord, hein. On pourrait répondre à Grelot pour reprendre sur le point de vue philosophique et montrer que peut-être il est nécessaire pour faire une herméneutique d'avoir une certaine philosophie derrière. Puisque toute exégèse implique une herméneutique. Toute exégèse implique une interprétation. Alors est-ce que le problème de l'interprétation est un problème philosophique ou un problème non philosophique ? Jusqu'à nouvel ordre, c'est un problème philosophique. Et chaque philosophie a son herméneutique. Toujours. Forcément, ça ne veut pas être autrement. Nous le verrons. Chaque philosophie a son herméneutique. Alors, c'est un problème très intéressant de savoir. Est-ce qu'il y a des conditions pour qu'une philosophie puisse être la servante de la foi, la servante de la théologie ? Mais il y a quelques questions comme ça qu'on doit se poser tout le temps, parce que la réponse n'est pas facile du tout, elle est très très complexe. Alors, il faut du temps. Et je crois qu'il faut y réfléchir très très vite à ces problèmes-là. Parce que c'est les problèmes d'aujourd'hui. On est pour le pluralisme théologique. On est pour le pluralisme théologique. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce pluralisme théologique ? Jusqu'où va le pluralisme théologique ? Vous voyez ? C'est ce problème-là. Je me souviens, sitôt le concile, le cardinal Tiandoum que je ne connaissais pas, il y avait des amis communs, il est venu me trouver, je prêchais à la part Dieu, il est venu me trouver, on a pris son repas ensemble, et puis comme toujours, c'est au moment du café où les questions difficiles se posent, et alors il m'a dit, Père, j'ai une grande question à vous poser. Pendant tout le concile, on a cessé de me dire, il faut faire une théologie africaine. J'aimerais avoir votre avis. Faut-il avoir une théologie africaine? Alors on a discuté très longtemps sur cette question-là. Le pluralisme de la pensée philosophique. Le pluralisme de la pensée théologique. Alors il y a une chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une liturgie africaine. Ça oui. Il y a une liturgie africaine. Il suffit d'avoir vu les carmélites danser en chantant le Magnificat pour comprendre qu'il y a une liturgie africaine. Parce que quand elles dansent de cette manière-là, j'ai vu tout un Carmel. C'était merveilleux. C'était dans le Rwanda. Il y avait des carmélites du Rwanda. Et c'était très beau. Vous auriez transposé ça au Carmel de Créteil, n'est-ce pas? Et je crois qu'alors à ce moment-là, ça n'aurait pu être du tout. Il y a une liturgie carmélite propre à l'Espagne. Les carmélites, quand elles sont venues en France, se sont frottées à la pensée française qui faisait que c'était déjà très différent. Alors les béruliennes, c'est autre chose, il y a eu quelque chose de particulier, et ainsi de suite, vous voyez. Et puis il y a des carmélites qui naissent en Afrique, il y a une liturgie africaine, ça c'est sûr. Y a-t-il une théologie africaine, ou est-ce qu'il y a une théologie de l'Église catholique? Et cette théologie de l'Église catholique qui demande de se renouveler tout le temps et qui demande de se conserver. Il faut garder une tradition et à l'intérieur de la tradition, il faut le renouveau. Ceci est vrai de toute l'Église et ceci est particulièrement vrai de la théologie. Alors à l'intérieur de cette Église catholique, de l'Église, à l'intérieur de cette théologie de l'Église catholique, cette théologie admise par l'Église catholique, avec du plus et du moins, il y a un pluralisme. Ça, on ne peut pas nier. Ça a toujours existé. Il y a eu dans l'Église une grande querelle qui a duré 100 ans, la querelle du déauxilis au sujet de la grâce entre les jésuites et les dominicains. Et ça a duré 100 ans. Jusqu'au jour où Rome a dit « Taisez-vous ». Alors ils se sont arrêtés. Mais ça a duré 100 ans. Et ça a duré quand même quelque chose d'important. Et c'était intéressant. L'Église n'a pas dit « Vous devez vous rallier aux jésuites » ou « Vous devez vous rallier aux dominicains ». Non. Elle a laissé. Comme l'Église laisse à l'intérieur de l'Église le point de vue de la philosophie suarésienne. On a le droit, parfaitement le droit, de dire ce qu'on en pense. On a parfaitement le droit de voir le traité de la grâce de Suarez et dire que c'est pas tout à fait ce que dit saint Thomas et qu'on peut très bien ne pas être d'accord. On a parfaitement le droit, mais j'ai pas le droit d'imposer. Il faut faire grande attention là-dessus. Je n'ai pas le droit d'imposer à quelqu'un qui fait partie de l'Église la théologie de Suarez, ou aussi bien de lui dire « Ah non, 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 vous n'avez pas le droit. » Saint François de Sales était très séduit par cette théologie des pères jésuites. Il ne faut pas l'oublier. Et les saints. Suarez, pas encore, mais quand un père jésuite que je connais bien était parti en Espagne pour voir si on n'allait pas introduire la cause de Suarez, il m'a dit « Priez beaucoup pour ça. J'espère que ça ne vous scandalise pas que je vais pour l'introduction de la cause de Suarez. » Alors je dis « Pas du tout. Autre chose est sa sainteté. Et puis autre chose, sa philosophie et la manière dont il parle des méditations métaphysiques. Donc à ce moment-là, j'ai tout à fait le droit. C'est très important, vous voyez. Et ça, c'est la théologie fondamentale. La théologie fondamentale nous donne le sens de ça. Et c'est quand même très important. Il ne faut pas être plus catholique que l'Église. Hein? Parce que si vous êtes plus catholique que l'Église, vous faites des gaffes et un jour ou l'autre, vous sortez de l'Église. Et on sait ce que c'est. Les intégristes, ils veulent être plus catholiques que le pape. Alors, pour être plus catholique que le pape, on dit que le pape est hérétique. Alors à ce moment-là, on se met à la place du pape. Tout simplement, parce que le pape est hérétique. Alors, on se met à la place. Et vous voyez, au fond, c'est pris de ce sentiment, on veut être plus catholique que l'Église. Et alors, au bout d'un certain temps, quand on veut être plus catholique que l'Église, on met en dehors les autorités et on les critique toutes. On oublie que le Saint-Père a reçu une grâce particulière pour diriger la barque de Pierre, la barque du Christ. Donc, il ne faut pas être plus catholique que l'Église. Dans sa théologie, l'Église nous laisse l'option. Oh, très bien, optons. L'Église recommande saint Thomas. Très bien, mais à l'intérieur de saint Thomas, il y a beaucoup de demeures. Hein? Et donc, on peut expliquer saint Thomas de diverses manières. Et pour chacun, il y a les authentiques thomistes, et puis il y en a les mineurs. N'est-ce pas? C'est forcé, mais ce n'est pas la même manière d'ordonner, à droite ou à gauche. N'est-ce pas? Ce n'est pas la même manière d'ordonner, parce qu'on peut très bien ordonner différemment. Il y a les thomistes durs, comme dit Maritain. Et je ne dis pas qu'il est thomiste mou, mais il est thomiste dur. Les thomistes durs, c'est Bagnès, c'est les grands thomistes à cette suite de saint Thomas. Puis les thomistes, évidemment, Capreolus, qui est un thomiste un peu plus relatif. On laisse l'option. Mais c'est bien ça, du reste, qu'il y ait une recherche. Et pour qu'il y ait une recherche, il y a un tout petit peu de souplesse. Le problème demeure. Et c'est ça le problème de la théologie fondamentale. Quels sont les rapports de la foi et de l'intelligence? Quels sont les rapports de la foi et de l'intelligence? Vous voyez, une théologie fondamentale, merveilleuse, que saint Thomas a faite, c'est le contrat Gentiles. Pour moi, le contrat Gentiles reste non pas une apologétique, mais une théologie fondamentale. C'est un aspect critique où saint Thomas essaie de comprendre ce que l'intelligence humaine est capable de dire par elle-même. Jusqu'où l'intelligence humaine peut aller. Et ce que seule la foi peut dire. Alors vous avez ce problème, je prends là parce que c'est quand même... saint Thomas, et nous devons connaître saint Thomas, ça fait partie des exigences propres de notre formation, et donc le contrat Gentiles doit être quelque chose que nous abordons plus ou moins vite, mais on ne peut pas terminer ses études philosophiques et théologiques surtout sans avoir regardé le contrat Gentiles. Ça me semblerait quelque chose d'assez lamentable. Bien, dans le contrat Gentiles, saint Thomas montre ce que l'intelligence ordonnée à la vérité veut dire par elle-même, par la philosophie première et toutes les parties de la philosophie. Ce que la foi peut seul dire, donc la vérité révélée. Et puis saint Thomas montre. C'est ça qui est génial de la part de saint Thomas. C'était de son temps, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Mais il l'a précisé, comme toujours. Saint Thomas n'a pas inventé beaucoup de choses. Il a précisé des quantités de choses. Et alors saint Thomas montre qu'il y a une zone qu'on appelle les prés ambula fidei. Ah, les prés ambula fidei. Il y a une zone que l'intelligence peut atteindre. Et que la foi nous dit ordinairement. Alors, quels sont ces préambula fidei? Zone intermédiaire, c'est très intéressant quand on voit Comme ça, il n'y a pas d'opposition entre la foi et l'intelligence, mais il y a une zone intermédiaire. Et une zone intermédiaire qui est une zone, je ne dis pas une zone neutre, mais une zone intermédiaire que l'intelligence peut atteindre et que la foi embrasse. Zone intermédiaire. Quels sont les préambula fidei? L'existence de Dieu. L'intelligence est capable par elle-même de découvrir l'existence d'un être premier que nous appelons Dieu. Et la foi nous le dit. La foi nous dit que Dieu existe. Donc vous voyez bien que là nous sommes en face de préambula. La petite propédeutique de foi, les préambula, tout ce que l'intelligence humaine peut atteindre, et cependant que la foi dit. Et la foi le dit parce que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à cela. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à découvrir l'existence de Dieu par eux-mêmes, par leur propre intelligence. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'immortalité de l'âme. L'amour. Ça, c'est un préambule à fidélité. L'intelligence humaine est capable de découvrir l'immortalité de l'âme. Et en découvrant l'immortalité, et on comprend que les deux, ça se tient. L'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme humaine. Et en même temps, la foi nous dit. La foi nous dit que nous avons une âme spirituelle qui est immortelle. Et qu'au moment de la mort, notre âme sera libérée de notre corps. Elle pleurera un peu son habitation et son temple. Mais elle sera libérée du corps pour continuer d'exister. Elle existera avec des petites ailes. Parce que il poussera à ce moment-là. Alors, ce sera l'immortalité de l'âme humaine. Alors à ce moment-là, on en aura l'expérience. Jusque maintenant, j'en ai pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience que votre âme est immortelle. Les deux grands points, c'est l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme. Ça, c'est les deux points essentiels comme préambule infini. Alors, la question, le Christ est fils de Dieu. C'est la foi. L'intelligence humaine ne pourra jamais, historiquement parlant, prouver que Dieu est bien, que Jésus est bien le Fils de Dieu. Là, c'est intéressant parce que certains pourraient dire, on peut y arriver quand même. On doit pouvoir y arriver dans la mesure où la résurrection existe et dans la mesure où la résurrection nous montre que c'est bien Jésus crucifié qui a été ressuscité. Alors, est-ce que c'est pas une preuve? Est-ce que ce n'est pas une preuve historique que Jésus vient? Et alors à ce moment-là, ça me suffit pour dire qu'il est Dieu, qu'il est fils de Dieu? Eh bien non. L'affirmation « le Christ est fils de Dieu » relève de la foi. Alors, la très sainte Trinité. Ah, les philosophes de l'Antiquité, quand même, Plotin a découvert une Trinité. La Trinité, donc, on peut la prouver. C'est tellement évident, n'est-ce pas, qu'il y a nécessairement une fécondité en Dieu, puisque c'est le vivant. Et c'est tellement beau, donc je vous le dis l'affirmer. Non. La très sainte Trinité, seule la foi peut nous dire. L'Église. C'est un phénomène sociologique. C'est évident que c'est un phénomène sociologique. Mais dire que l'Église est conduite par le Saint-Esprit, ça, c'est la foi. Pour être sûr. Ce que vous voyez, c'est pas toujours évident, et c'est jamais évident. Les sacrements, et ainsi de suite, hein, tout ce qui est l'objet de la foi. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que la théologie fondamentale, dans le Contrat Gentiles, nous montre qu'il ne peut pas y avoir, et c'est une chose qu'on doit très très fort comprendre, cela. Il faut y réfléchir. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce que l'intelligence humaine découvre par la philosophie, par les sciences, c'est d'autant plus important aujourd'hui, ce que l'intelligence découvre par la ce que l'intelligence, par la philosophie, par les sciences, et ce que la foi dit. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Ça, c'est une des données très importantes de la théologie fondamentale. Pourquoi ? Parce que justement, l'intelligence et la foi proviennent de la même source, la vérité première. Puisqu'ils ont la même source, les exigences de l'intelligence et les exigences de la foi sont parallèles. Je dis bien, sont parallèles. Puisque l'exigence de l'intelligence, c'est la recherche de la vérité, et l'exigence de la foi, c'est de recevoir la vérité. La foi reçoit, et la philosophie et l'intelligence découvrent. Ce n'est pas la même vérité. D'un côté, c'est une vérité que nous avons découvert par nous-mêmes à partir de l'expérience, et de l'autre côté, c'est une vérité qui vient d'en haut, et donc qui est toute différente. Allô, allô, autre, autre, autre cette vérité, autre cette vérité révélée. Et il y a quelque chose de commun, puisque tous les deux nous avons vérité. Et donc je découvrais cette cause. Mais il ne peut pas y avoir de contradiction. Alors vous voyez tous les problèmes d'aujourd'hui, théologie fondamentale, tous les problèmes d'aujourd'hui par rapport aux recherches génétiques. Toutes ces recherches de, au point de vue de la manière dont l'homme peut connaître et peut arriver à vouloir connaître de plus en plus. Alors on dira, vous voyez, quand l'Église, par exemple, dit non, non, pour la question de la fécondation in vitro. Ça avait beaucoup parlé il y a quelques années avec ce savant italien, d'autant plus que c'était en Italie. Alors on a dit de nouveau, voilà Galilée qui recommence, l'histoire de Galilée qui recommence, l'Église qui arrête le progrès, l'Église qui ne veut pas le progrès, l'Église qui a peur du progrès. C'est toujours, tout le temps dit ça, hein. Il y a toujours cette espèce de vision par derrière. Alors, il faut être très net là-dessus, il faut être très net. L'Église n'arrête jamais le progrès scientifique, jamais. Mais l'Église peut montrer qu'il y a un usage faux de la science. C'est la question de l'usage et de l'application. Et dans la question de la fécondation in vitro, c'est très net. L'Église n'arrête pas le progrès. L'Église ne veut pas arrêter le progrès. Vous savez, je vous ai répété une fois ce que le Saint-Père Paul VI avait dit avec sa netteté en face de ces grands savants du monde entier, que le professeur Marois lui avait amené, et que la première séance était donc à l'Académie italienne, qui est sous le haut patronage de Galilée. Et le président de l'Académie italienne avait dit, ici à Rome, c'est bien évident, c'est Galilée qui avait raison et l'Église qui avait tort. La science progresse et l'Église régresse. Alors vous voyez très bien ce que ça faisait faire devant ces 15 grands savants du monde entier qui, en se tâtant le pouls, se considéraient qu'ils étaient le QG de la science. Pas la peine d'en inviter d'autres. Ils étaient l'intelligence scientifique mondiale. C'est très beau, ça. Hein, petite boire scientifique. 15. Dans le domaine mathématique, dans le domaine physique, dans le domaine biologique. Ils se considéraient comme les grands savants du monde d'aujourd'hui. Pas la peine d'en inviter d'autres. C'est suffisant, les 15. Évidemment, dedans, il y avait 8 prix Nobel. C'est sûr. C'est normal, n'est-ce pas? Alors, ils se considéraient comme les plus grands savants, comme je ne dis pas les plus grands savants, mais représentant la science. Il y avait la Russie représentée, l'Amérique représentée. Le seul pays qui n'était pas représenté, c'était la Chine à ce moment-là, à cause de Mao. Donc c'était le seul pays qui n'était pas représenté. Tous les autres pays étaient représentés. Et dedans, ils avaient choisi les 15, qui représentaient la science du monde d'aujourd'hui. Alors, arrivé à Rome, vous comprenez très bien, à l'Académie italienne de sciences, sous le haut patronage de Galilée, on voit très bien le topo qu'on a pu faire. Et Marois, qui est secrétaire de l'Institut de la vie, donc qui, lui, avait rassemblé ses savants, et il les rassemble tous les 2 ans, Marois avait essayé d'avoir une audience particulière de Paul VI. Il l'avait obtenue, mais n'avait pas demandé l'avis de ses savants. Alors quand il a subi ce déluge, n'est-ce pas, de ce discours pontifical du président de l'Académie italienne, ce discours sur Galilée, il devait dire ensuite, sans savoir du tout l'opinion religieuse de ses grands savants, j'ai demandé à Paul VI une audience. Il m'a dit, ça a été dur, c'était dur. Je me demandais ce que j'allais faire. Ben, je leur ai dit, parce que c'était fait. C'était le mardi, je crois que c'était le lendemain. Ou bien c'était le lundi, c'était 2 jours après. Alors il leur a dit, je ne sais pas quelles sont vos opinions religieuses, mais étant donné que nous sommes ici à Rome, j'ai pu avoir une audience de Paul VI, je crois que ça vous intéressera. Alors à ce moment-là, il m'a dit, la physionomie de ces 15 ont complètement changé. L'un a dit, je crois que c'était le Suédois, quel intérêt aller voir le pape? Quel intérêt? C'est une momie. C'est un musée, le Vatican. C'est le seul intérêt, c'est le musée. Ben, le pape, c'est une momie. Point de vue scientifique, qu'est-ce qu'il est? Rien du tout. Qu'est-ce que ça représente? Alors, tous, ont fait leur remarque en disant, en même temps, tous, unanimement, sauf le président de l'Académie italienne qui lui a sorti son petit carnet en disant, ah, je suis désolé, ce jour-là j'ai une conférence, hein. À cette heure-là j'ai une conférence, on voit très très bien la manière de trouver la combination, de se mettre un tout petit peu en dehors. Alors Marois me disait à ce moment-là, je voyais que chacun allait donner une excuse comme ça, non, tous, ayant dit, non, nous ne croyons pas, nous sommes en dehors de la foi, nous sommes en dehors de ce point de vue religieux, nous sommes des savants. C'est du reste impressionnant, hein, de voir que ceux qui représentent la science d'aujourd'hui, unanimement, Marois les avait choisis en dehors du point de vue religieux, uniquement dans les compétences scientifiques. Hein. Et c'est ce qu'il faut faire si on fait l'Institut de la vie. Mais tous ont dit, nous y serons à cause de vous, par amitié pour vous. Nous savons que vous êtes croyants. Nous savons que pour vous, ça représente quelque chose. Mais par amitié pour vous, on y sera. Et en effet, à leur âge, ils y étaient tous. Et j'ai vu la photographie, c'était très beau, c'était assez impressionnant. Et alors, le Saint-Père leur a dit, j'ai lu ce que le Saint-Père leur a dit, en 3 points, ça se retient pour toute la vie. C'est la théologie fondamentale. Un petit résumé de théologie fondamentale, merveilleux, de ce petit problème-là. Paul VI a dit, quand Paul VI préparait quelque chose, et ça il devait le préparer, il l'avait le pouvoir, il savait qu'il y avait lui, prix Nobel, hein, il savait qu'il y avait dans lui. Hein. Alors Paul VI a dit, l'Église a toujours eu un très grand respect des siens. L'Église a toujours reconnu la grandeur des savants et la grandeur des siens. Premier point, hein. La foi reconnaît l'intérêt du développement de l'intelligence. L'Église a toujours respecté la philosophie et la science. Toujours. L'Église a toujours respecté cette capacité qu'est dans l'homme de l'intelligence. Toujours. L'Église n'a jamais proclamé le primat de l'ignorance. Et l'Église a été source de tout progrès scientifique, au point de départ, de toute la biologie contemporaine, c'est l'Église, en Italie. C'était même des curés, tu vois, qui ont été à l'origine. C'est très curieux, ces choses-là. Et ce qu'Aristote disait à propos de la connaissance spéculative en Égypte, ça, on peut le dire par rapport à nous, du côté proprement du développement de la science moderne. Deuxième point, l'Église en face des savants affirme que la science ne pourra jamais avoir un droit sur la vie, la naissance et la mort. Et l'Église demande aux savants le respect de la vie, le respect de la naissance et le respect de la mort. Troisième point, l'Église dit aux savants qui est l'auteur de la vie, le Créateur, que le savant ne peut pas connaître. Trois points. Bien. Et voyez, c'est bien le point de vue. Alors, le préambula fidei, hein. Si ce n'était pas un préambula fidei, le Créateur, l'Église ne pourrait pas le dire aux savants. Le Saint-Père n'a pas dit l'Église dit au savant qui a le Christ. Ça, il dit à l'homme, pas au savant. Très précis, hein. Quand Paul VI disait quelque chose, c'était d'une précision étonnante. Et ces trois points, c'est vraiment tout le résumé de la théologie fondamentale pour moi. Le respect de la pensée de l'autre. La foi doit nous donner ce respect. On doit être plus respectueux de la pensée de l'autre que si on est croyant ou si on n'était pas. Parce qu'on sait que l'intelligence, c'est parce qu'on est à l'image de Dieu. Et donc on respecte toute démarche intellectuelle, authentique, recherchant la vérité. Toute démarche intellectuelle. On doit toujours avoir ça. Deuxièmement, on doit montrer les limites de la science. Les limites de la science, c'est que la science est pour l'homme et non pas l'homme pour la science. Ça faisait partie de ce second point. La science est limitée et que la science est relative à l'homme. Et ça, c'est très important, vous voyez, parce que ça montre le point de contact qu'il y a dans la science par rapport à la foi. La science est relative à l'homme. Tant que la science n'est pas relative à l'homme, elle est dans son domaine propre, c'est tout. Mais elle est relative à l'homme. Alors, quand on dit qu'elle est relative à l'homme, vous dites, c'est bizarre. On travaille la science, on progresse la science pour le bien de l'homme. Et c'est là où intervient le point de vue de l'Église. C'est la question du bizarre. Ça peut être très très net là-dessus. Essayez tout le temps de détecter ça quand l'Église... L'Église devrait peut-être, dans ses propositions, le dire plus nettement. On comprendrait mieux que ce n'est pas la science, ce n'est pas le progrès de la science, mais c'est l'usage. Parce que dès qu'on touche l'homme, l'Église, immédiatement, comme une mère, comme une lionne, elle s'en touche. Attention, vous n'avez pas le droit de manipuler comme vous voulez un fœtus humain. Pas le droit. Parce que c'est déjà l'homme qui est là présent. Alors, l'Église, là, a une espèce de sens maternel qui fait qu'on respecte et on veut respecter. Parce que, justement, plus on est faible, moins on peut se défendre. Et alors, à ce moment-là, c'est l'Église doit défendre. L'Église doit défendre le faible. Alors, on comprend très bien ce second point, la science est ordonnée à l'homme. Le progrès de la science est ordonné à l'homme. Et quand le progrès de la science n'est plus ordonné à l'homme, ça prouve qu'il y a déjà là quelque chose qui n'est plus toujours ordonné, pas directement, vous comprenez, parce que c'est une connaissance qu'il faut rechercher pour elle-même, mais elle est toujours en vue du bien de l'homme. Et quand elle va contre le bien de l'homme, ce n'est plus une science. Et puis troisièmement, le point de vue du Créateur, préambula fidei, l'existence de Dieu. Donc l'Église, du moins, nous devons maintenir toujours qu'il ne peut pas y avoir d'opposition, de contradiction entre la recherche de la vérité au niveau de l'intelligence et au niveau de la foi. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Quand l'Église met un veto, c'est parce que l'homme est en danger. C'est parce qu'on use des progrès de la science d'une manière qui n'est pas légitime. Vous voyez, c'est toute la question de l'éthique médicale. C'est la question de l'usage. Et c'est là où l'Église intervient. Ce n'est pas la question, encore une fois, des connaissances biologiques. Non, la connaissance des connaissances biologiques. Alors, de temps en temps, les frontières ne sont pas commodes du tout à voir. Hein. Ça, c'est bien évident. Et quelquefois, on ne voit pas très bien. Il faut faire grande attention. Il faut y réfléchir et bien comprendre que, de fait, l'Église ne peut pas arrêter un progrès scientifique. L'Église ne peut que défendre l'homme dans sa finalité et respecter l'homme dans sa finalité. Et donc, là, montrer que l'usage que le savant peut faire de telle ou telle technique, de telle ou telle découverte, irait contre ce qu'est l'homme tel que l'Église le conçoit et tel que nous devons le concevoir, créé à l'image de Dieu. Donc, on voit bien que la théologie fondamentale a donc quelque chose d'extrêmement important pour nous. Surtout dans notre monde d'aujourd'hui, où le progrès de la science risque toujours de vouloir déterminer l'éthique. Que je vous disais à propos de Monod. Et si le professeur Marois, lui, de son côté, a fondé l'Institut de la vie, depuis 15 ans maintenant, je crois, ça fait à peu près ça, 15 ans ou 18 ans, c'est parce qu'il a vu, avec le progrès biologique, que les biologistes voudraient déterminer l'éthique à partir de la biologie. Alors, il a dit, il faut réunir les savants entre eux. Dès qu'on réunit les savants entre eux, ils s'aperçoivent que chacun veut l'absolu. Alors, quand chacun veut l'absolu, on est obligé de se relativiser. Au niveau proprement scientifique. Et dans son but, c'était ensuite de faire intervenir la philosophie et de faire intervenir la théologie. Alors, le problème que nous allons traiter cette année-ci, nous allons essayer de traiter cette année-ci, parce que c'est des problèmes complexes, hein. On ne donne pas de solution, on y réfléchit, on essaie de comprendre. C'est de voir le problème de la parole. Parole humaine, parole divine. Et vous voyez l'importance et l'intérêt. La parole, nous verrons, c'est quand même relatif à l'intelligence. C'est relatif à l'homme par l'intelligence. La parole divine est relative à la foi. S'il n'y avait pas un contact au niveau de la parole, il n'y aurait pas de théologie. Si Dieu était uniquement celui qui illuminait mon intelligence, pourrait se faire. Dieu pourrait être celui qui me donne une lumière intérieure et une lumière purement intérieure, une illumination intérieure, sans aucune parole. À ce moment-là, il n'y aurait pas de théologie. Il y aurait le silence mystique, il y aurait la philosophie. Donc il faut bien comprendre ce problème-là. La foi comme telle me met directement en relation avec Dieu. Premier article de la Somme théologique de saint Thomas sur la foi. Je vous le rappellerai la fois prochaine, parce que c'est intéressant de voir ça. Premier article sur la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est important, vous, en fait. Vous devez vite savoir un peu ce que c'est que la foi, réfléchir un peu sur ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est que la foi. Et la foi, chrétienne est une foi qui reçoit la parole. Dieu s'est servi de la parole. Il s'est servi de la parole des prophètes. Il se sert la parole dans l'Église. Il y a des conciles. Ils continuent de se servir de la parole. Et nous continuons de servir de la parole de Dieu. Dans la prédication, dans la théologie. Et c'est grâce au fait que Dieu s'est servi de la parole humaine qu'il y a une possibilité de comprendre une théologie.